Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes les terminales HCR du lycée Jean Vigo. Ce podcast a été enregistré avec l'aide des Sophia des Radios Larzac et de Martine Fabre, documentaliste au CDI du lycée Jean Vigo, et le prof de français, Madame Pinot Rachel.
Aujourd'hui, nous allons vous parler du journalisme pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945. L'information devient une arme. Les journaux, la radio et les affiches servent à influencer la population. Dans les pays occupés comme la France, les autorités contrôlent les informations grâce à la propagande et à la censure.
Mais malgré ce contrôle, des journalistes, des résistants et des citoyens continuent de diffuser les informations libres, souvent au péril de leur vie. Dans ce podcast, nous allons voir comment la propagande et la censure ont marqué cette période, mais aussi comment la résistance a créé une presse clandestine pour défendre la liberté.
Les propagandes contrôlent les idées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tous les gouvernements utilisent les propagandes. Les propagandes consistent à diffuser des messages pour informer l'opinion publique. En France, après la défaite de 1940, le maréchal Pétain dirige le régime de Vichy gouvernement et collabore avec l'Allemagne nazie. Les journaux autorisent de faute sur les hymnes diffusés chez les idées.
Les fils, les journaux et la radio présentent petit comme une heure quand protestent la France. Les médias accueillent aussi contre une phrase de la population, notamment les juifs, les résistants et les étrangers, être responsables des problèmes des pays. En Allemagne, Adolf Hitler utilise également la propagande pour contrôler la population. Le ministre Joseph Goebbels dirige toutes les communications nazies, les journalistes, les films et la radio. Défense des messages nationalistes et antisémites.
La radio joue un rôle très important. Beaucoup de familles possèdent un poste radio. Les gouvernements savent donc qu'ils peuvent toucher un grand nombre de personnes rapidement. La propagande recherche à convaincre, mais aussi à faire peur. Elle pousse les populations à soutenir la guerre et à obéir aux autorités.
La censure empêche les informations libres. Pour que la propagande fonctionne, il faut aussi empêcher les informations contraires. C'est ce qu'on appelle la censure. Pendant l'occupation, les autorités allemandes et le régime de Vichy contrôlent les journaux avant leur publication. Les articles sont vérifiés, certains textes sont interdits. Les journalistes qui refusent d'obéir risquent des sanctions, la prison ou parfois la mort.
De nombreux journaux disparaissent parce qu'ils refusent la collaboration. Les radios étrangères sont également interdites. Écouter certaines émissions peut être puni. Pourtant, beaucoup de Français écoutent secrètement la BBC, la radio britannique. Depuis Londres, le général Charles de Gaulle lance le message aux Français. Les plus célèbres est l'appel du 18 juin 1940, diffusé à la radio de la BBC. Dans ses discours, de Gaulle refuse la défaite face à l'Allemagne nazie et appelle le Français à continuer les combats.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacité française de production d'armement doit être organisée partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Même si peu de personnes entendent ce message en direct, il devient ensuite un symbole de la résistance française. Cet appel montre qu'une autre voie existe face à la propagande du régime de Vichy. De Gaulle encourage aussi la résistance et diffuse des informations différentes de celles présentées par la propagande officielle. Les journalistes n'ont donc plus la liberté de parler librement. L'information devient contrôlée par le pouvoir.
La presse clandestine et la résistance. Face à cette censure, des résistances créent des journaux clandestins. Ces journaux sont imprimés en secret, souvent dans des caves, des appartements ou des ateliers cachés. Des personnes qui les fabriquent prennent des grands risques.
Parmi les journaux clandestins les plus connus, on peut citer Combat, Libération ou encore Défense de la France. Ces journaux dénoncent la collaboration, donnent des informations interdites et encourageant les Français à résister.
Les exemplaires sont distribués discrètement dans des boîtes aux lettres, les gares ou les rues. Les lecteurs les partagent ensuite autour d'eux. La presse clandestine joue un rôle très important. Elle permet de garder un esprit critique et montre qu'une autre parole existe malgré la propagande.
L'Humanité est le journal du Parti communiste français et devient illégal à partir du 25 août 1939. Libération, journal clandestin du mouvement de résistance. Ici, Radio Maquis, c'est un jeu sur le thème de la résistance créé en 1945.
Le Franc-Tireur et les journaux à tendance radicale socialiste m'assoient dans la mesure du possible et par la grâce de la police de Pierre Laval. Jean-Pierre Lévy est à l'origine de son lancement, 1er décembre 1941, en même temps qu'il de l'organisation du mouvement clandestin du même nom en zone sud. 39 numéros clandestins parurent.
Maurice Schumann était journaliste et éditorialiste à Radio Londres, a aidé les résistants. Jacqueline Bernard était journaliste, membre du mouvement Combat, arrêtée par la Gestapo et déportée à Ravensbrück.
Rémi Roure était un journaliste au Temps, puis au Monde et au Figaro. Membre de la résistance, il est arrêté puis déporté au camp de Buchenwald en 1944.
L'histoire du journalisme pendant la Seconde Guerre mondiale nous rappelle que l'information peut être manipulée. Quand un pouvoir contrôle les médias, il devient plus difficile pour les citoyens de connaître la vérité. Cette période montre aussi l'importance de la liberté de la presse. Les résistants ont parfois risqué leur vie pour imprimer quelques pages de journal ou diffuser des informations vraies.
Aujourd'hui encore, dans certains pays, des journalistes sont censurés ou menacés. Comprendre cette histoire permet donc de réfléchir à l'importance des médias libres et du droit à l'information. Pour conclure, pendant la Seconde Guerre mondiale, le journalisme est devenu un outil de guerre. La propagande et la censure ont permis au régime autoritaire de contrôler les populations. Mais face à cela, les résistants ont créé une presse clandestine pour défendre la liberté et s'informer des citoyens. Grâce à ces journaux comme Combat, Libération ou Défense de la France, une information libre a continué d'exister malgré les dangers. Cette histoire nous rappelle que la liberté de la presse est essentielle dans une démocratie. Merci de votre écoute.